Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Dwayne.
Hello tout le monde.
Alors, pour faire simple, ma Miami, au moment où vous écouterez ce podcast, sera probablement dans l'avion en direction du pays des caribous. Quant à Mordren, tout simplement, le monsieur est en train de terminer sa thèse, n'est-ce pas? Donc on va le laisser travailler. Voilà, voilà.
Oui.
Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on va le chercher par la peau des fesses et il va faire ce putain de podcast. Bon, Dwayne, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous allons parler d'un certain Moonhunters, n'est-ce pas, ta suggestion. Nous évoquerons ensuite la date de sortie de Planetary Annihilation, un jeu qui avait été financé sur Kickstarter. Nous parlerons ensuite du prochain jeu de la Team Meat. Nous évoquerons le dernier Nintendo Direct qui a annoncé une nouvelle, entre guillemets, et j'insiste sur les guillemets, parce que c'est dans le logo, n'est-ce pas, 3DS. Nous parlerons de Amazon qui rachète Twitch. Nous évoquerons également les rumeurs qui prétendent que Activision serait tentée par un rachat de Take-Two. Le remboursement de jeux achetés, je crois que c'est un sujet qui touche, n'est-ce pas, certains de nos auditeurs, notamment un certain Thanos, n'est-ce pas. Donc, ça fera plaisir à ces gens-là, cette nouvelle. Il paraît que la DGCCRF australienne, enfin l'équivalent de nos amis australiens, a décidé de s'attaquer à Valve sur ce sujet-là. Et il les a envoyés en justice. Et enfin, pour terminer, le PlayStation Network qui a encore été victime d'une attaque. Le tout agrémenté de rumeurs d'attentats à la bombe, je crois. Enfin bref, une histoire très très drôle, n'est-ce pas? Pas de jeu du moment cette semaine, encore une fois, car je n'ai pas le temps de jouer en ce moment. Et Dwayne ne fait que des jeux vieux, n'est-ce pas? Donc voilà. Oui. Tout ceci sera bien entendu compensé par un point culture. Voilà, voilà. Donc, nous allons commencer, Dwayne, ce podcast d'actualité avec Moonhunters. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Kickstarter, mon cher Dwayne?
Alors, donc, personnellement, je suis pas trop sur Kickstarter en ce moment, vu que j'ai déjà plein de projets qui arrivent, enfin, que j'ai backé, qui arrivent en Early Access et autres.
Honnêtement, il n'y aura pas grand-chose.
Voilà, et en plus, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Donc là, c'est un projet qui a eu d'ailleurs un franc succès, hein, vu qu'ils sont déjà presque au double de leur objectif. Donc, ils demandaient 45 000 $, ils sont déjà à 74 000, il leur reste 27 jours. Donc voilà, qu'est-ce que c'est Moonhunters? Donc c'est un action RPG, donc qui va nous permettre à la fois de jouer en solo, mais qui est aussi très axé sur la coop, hein, donc jusqu'à 4 joueurs. Le but, en fait, final du jeu, c'est de créer sa légende dont les gens vont continuer à parler. En fait, il y a un système de rejouabilité qui est assez intéressant dans le sens où le héros qu'on a joué, par exemple, lors de la première partie, sa légende va continuer à rester sur notre deuxième partie. Donc tout ça, après, ce sont pour l'instant que des mots, donc à voir après comment ce sera intégré au gameplay. Mais en tout cas, il y a un concept de rejouabilité. L'histoire sera à chaque fois différente. Après, voilà, différents mondes avec des mythes persistants en fonction de nos actions. Donc après, le projet, même visuellement, a l'air assez intéressant. Donc je précise que c'est du pixel art, hein, comme beaucoup de projets Kickstarter. Donc à voir ce que ça va donner. De toute façon, le projet est déjà backé. Et donc on verra ce que ça donne au lancement.
Ouais, personnellement, je trouve ça un peu trop nébuleux, mais bon, j'ai du mal à cerner ce qu'est vraiment le jeu, et si je comprends bien ce que je crois comprendre, ça m'a l'air super ambitieux pour un budget aussi petit, quoi. Parce qu'en gros, c'est du scénario procédural, hein, de ce que j'ai compris, donc c'est quand même couillu, on va dire, mais est-ce qu'ils sont pas un peu trop ambitieux pour leur budget, et puis bon. Je sais pas, j'ai tendance à me méfier de plus en plus des Kickstarter qui promettent beaucoup trop de choses pour
budget. Je te comprends. Petit, après, moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est que c'est déjà backé, donc j'ai pas à mettre des sous si ça m'intéresse. Après, c'est un petit projet intéressant, mais c'est pas quelque chose que, par exemple, moi, j'irais backer.
Alors justement, un projet que moi j'ai backé par contre, c'était Planetary Annihilation, le successeur spirituel du cultissime Total Annihilation, donc un jeu stratégie en temps réel, n'est-ce pas? Et on a eu enfin une date de sortie, le jeu sortira le 5 septembre. Alors, pourquoi je parle de cette date de sortie en début de podcast? Parce que je voulais insister sur un point. Je vous conseille très fortement d'attendre les tests avant de vous jeter dessus si vous êtes un fan de Total Annihilation. Pourquoi? Parce que des retours que j'ai eus, c'est pas jojo, on va dire. C'est potentiellement un des plus gros projets Kickstarter qui va décevoir, je pense. Parce que moi, de ce que j'ai compris des retours de la bêta, je précise, je n'y ai pas joué, c'est pour ça que je dis attendez les tests avant de faire quoi que ce soit. Mais moi, des retours que j'ai eu des personnes sur la bêta, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, Planetary Annihilation, l'une des features du jeu, c'est qu'en gros, vous allez jouer sur des cartes sphériques, vous allez dézoomer, et quand vous allez dézoomer, ça va afficher la planète dans son entier, en fait. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que ce concept-là ne marche pas, tout simplement.
Aïe.
Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, le problème, c'est que tu passes ton temps à chercher tes unités, en fait, à faire tourner la planète, etc. Bref, okay. C'est une grosse galère. Et aussi, ce que j'ai compris, c'est que tout ce qui est icônes, etc., c'est pas très clair. Bref, ça, en tout cas, au minimum, c'est un jeu qui mériterait plus de temps de développement. Et malheureusement, ils ont décidé de sortir le 5 septembre. Donc voilà. Ça plus le fait que c'est un Kickstarter qui, je trouve, a eu des pratiques douteuses, c'est peu de le dire. C'est notamment le seul Kickstarter qui a osé faire une sortie en boîte.
Ok.
Je sais pas si vous voyez un jeu qui est en bêta test, on te sort la boîte, on te dit tu vas payer la boîte de bêta test. C'est pas mal comme concept, surtout qu'en plus la surcouche par-dessus ça, c'est que pour la accéder à la bêta sur Steam, il fallait payer genre je crois $90 au début, un truc comme ça. Voilà le foutage de gueule assez colossal, quoi, on va dire. Donc bon, c'est un projet qui, à mon sens, ne mérite pas beaucoup de soutien. C'est un projet que je regrette personnellement d'avoir financé sur Kickstarter. Tout ça parce que j'étais fan de Total Annihilation. Donc bon, voilà. Moi, je vous conseille d'attendre des tests. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, on va dire. Mais pour le moment, c'est mal barré. Donc, méfiance. Nous passons à la suite, mon cher Dwayne. Et on va parler du prochain jeu de la Team Meat. La Team Meat, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Super Meat Boy, c'est The Binding of Isaac. Donc personnellement, j'attendais avec impatience leur prochain jeu, surtout qu'on avait eu un teaser la semaine dernière. D'ailleurs, c'est toi qui me l'avais fait remarquer, Dwayne. Et donc moi, j'étais sérieusement hypé. Et là, qu'est-ce qu'on voit hier soir? Parce que je précise, nous enregistrons le samedi et la nouvelle a été annoncée le vendredi soir. Un nouveau Super Meat Boy en runner. Alors runner, je rappelle, c'est ces jeux où vous courez tout le temps en fait jusqu'à la fin du niveau, quoi. Donc voilà. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Dwayne. Un Super Meat Boy runner, ça te donne envie ou?
C'est pas le problème de est-ce que ça donne envie ou pas, c'est que ça peut être sympathique, mais ça n'ira pas au-delà du sympathique parce que ça reste quand même un projet. Donc apparemment, bon, j'explique un peu, c'est-à-dire que là, les deux créateurs de la Team Meat, en fait, étaient sur donc leur projet Mugenix. Bon, là encore un projet que je suis en train d'essayer de comprendre, mais bon, avec des histoires de chats où ils sont assez ambitieux sur ce projet-là, apparemment. Et donc là, ils voulaient une respiration entre, ils ont mis une pause, on va dire, sur ce projet. Et donc là, le Super Meat Boy Forever, ils l'ont fait pour pouvoir avoir un projet en touch, enfin sur tablette, sur support mobile. Mais ça restera pas plus qu'un petit projet comme les Rayman sur mobile, qui sont très marrants. Hein. Mais après, ça reste des choses sympathiques. Ça ne va pas plus loin en termes de profondeur. Ça reste du tactile. Donc après, j'ai toujours envie de voir ce qu'ils peuvent réaliser, parce qu'ils ont quand même une certaine expertise à ce niveau-là. Mais voilà, là la hype redescend, on va dire, très très fortement, quoi.
Bah, disons qu'à mon avis, leur erreur, ça a été de faire un super teasing. Et bon, quand tu vois le résultat du teasing, tu te fais tout ça pour ça, quoi, en fait. J'ai été extrêmement déçu, hein, je vous le cache pas. J'étais sérieusement hypé et là j'ai vu ça, j'ai fait ouais, super.
C'est vrai que ça, c'est le genre de petit projet où t'attends et puis tu lâches un trailer ou quelque chose de concret juste avant la sortie pour que les gens l'achètent de manière impulsive, mais faire un teasing sur un runner mobile, c'est vrai que ça fait un peu mal lorsqu'on apprend la nouvelle.
Bon, Dwayne, t'es prêt pour le gros morceau? Alors là, je vous explique. Donc, on a eu un Nintendo Direct hier. Alors déjà, moi, j'étais pas au courant. Hein. Je sais pas si ça avait été annoncé.
Non, mais après, je pense qu'il y a pas eu, parce que c'est exclusif aux japonais en fait, ce Nintendo Direct. Donc c'est pour
ça.
Oui,
mais
ça
bon, on va dire qu'ils se doutaient que, vu ce qu'ils ont annoncé dedans, ça allait être relayé partout, n'est-ce pas? En gros, c'était un Nintendo Direct dédié à la 3DS. Et j'ai envie de dire, il était temps, n'est-ce pas? Durant ce Nintendo Direct, Nintendo a tout simplement annoncé son vrai nouveau modèle de 3DS. Une nouvelle 3DS XL, une nouvelle 3DS de base. Et cette 3DS s'appelle donc la New Nintendo 3DS. Alors, le menu de cette nouvelle 3DS, c'est quoi, mon cher Dwayne?
Miam, miam, miam. Alors, donc, un nouveau processeur. Maintenant, on a deux sticks, quoique... C'est vrai que le deuxième stick fait un peu de la peine lorsqu'on le voit, c'est-à-dire qu'il a pas l'air extrêmement ergonomique.
Non, mais en gros, on dirait un bouton déjà quand tu le vois.
Voilà,
un tout petit
effectivement.
Bouton.
Si on m'avait pas dit que c'était un stick, c'est vrai que ça ressemble vraiment à un petit bouton. C'est un petit cylindre qu'ils ont placé là un peu n'importe comment. Mais ça fait un peu penser, ça doit avoir une ergonomie assez semblable au super stick sur la première PSP, enfin sur la PSP tout simplement. Bon, là, c'est esthétique, des boutons qui sont maintenant colorés. On a plus de batterie, c'est-à-dire que là, on passe, il me semble, de 6 à 7 heures.
Alors, de 5 à 6 heures pour le modèle de base.
Ah oui, voilà.
Et de 6 à 7 heures pour la 3DS XL.
Et 6 à 7 heures,
enfin, voilà. New 3DS XL. Et j'insiste, les guillemets, c'est pas nous qui les mettons. C'est Nintendo, en plus, qui, pour bien marquer que tu vois que c'était une nouvelle 3DS... Hein?
C'est même pas des doubles guillemets, tu sais, c'est les triples guillemets.
Ouais, attention.
Donc après, on a des petits boutons sur les tranchants, donc.
Mais parce que ça, c'est pas une petite nouveauté quand même. Techniquement, ils rajoutent des boutons là, ce qui n'existe pas sur le précédent modèle. Donc, on en parlera après, mais ça veut dire quelque chose quand même, quoi.
Ça paraît assez bizarre en termes de stratégie, en tout cas, comme tu l'as bien dit dans ton papier. Et donc, ils ont aussi annoncé le nouveau jeu.
Alors, juste avant de venir au nouveau jeu, je voulais juste dire une chose. On a aussi un port micro SD qui a été ajouté. Ça va être super pour le piratage, je le sens. je n'ai pas compris Excellent. À quoi il allait servir. Et aussi, on a le NFC. Ça, c'est plus important, par
oui,
contre.
Oui, c'est parce vrai, que, j'avais oublié cette...
Ça, c'est pour écouler de la figurine, tout ça, donc il faut en parler. Donc, voilà, vous aurez du NFC pour acheter vos figurines Mario. Mais bon, je soupçonne qu'il, de toute manière, ils sortiront un périphérique pour que vous en profitiez aussi sur les précédentes consoles. Nous,
ah
vous
oui,
en faites pas.
Bien entendu.
Alors, par contre, moi, jusque-là, si vous voulez, j'étais un peu dubitatif, on va dire, parce que, bon, je me dis, ils rajoutent deux boutons de tranche qui n'existent pas sur la précédente machine. Il rajoute un stick analogique qui n'existe pas sur la précédente machine. Mais attends, là, il est en train de nous sortir une machine dont les boutons ne vont pas être utilisés dans les trois quarts des jeux. Et là, je vois, en fin du live, une annonce. Le portage de Xenoblade Chronicle. Alors, le Xenoblade qui était sorti sur Wii, hein, pas celui qui va sortir sur Wii U, là. Et donc, ce portage sera exclusif au nouveau modèle. C'est-à-dire que tous ceux qui ne posséderont pas une New Nintendo 3DS l'auront dans le fion. Parce que, en gros, de ce que dit Nintendo, pour arriver à faire tourner ce portage sur console portable, ils ont besoin du nouveau processeur qu'ils ont rajouté sur cette console. Donc, en gros, ils ont besoin de plus de puissance, et comme les anciennes générations, elles sont pas assez puissantes, allez vous faire cuire un œuf. Voilà, voilà. Donc, ouais, peut-être que je dis une connerie, hein, mais pour moi, c'est inédit, en tout cas. Et dans tous les cas, c'est un entubage, comme j'en ai rarement vu. Déjà, premier point. Et second point, quand j'accole ces annonces avec le fait qu'ils ont rajouté des boutons qui ne servent à rien, je me dis, ah, peut-être qu'on va avoir d'autres jeux exclusifs à ce nouveau modèle. Et puis, derrière, je regarde le nom, je me dis, ah, ils l'ont appelé la nouvelle 3DS, quoi. Alors que la Wii U, ils n'ont pas été foutus de l'appeler la nouvelle Wii U, la nouvelle Wii, hein, tu vois, c'est, alors que c'était une vraie nouvelle console, pour le coup. Donc, Peut-être que je me fais des films, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, disons qu'il y a un faisceau de présomption qui m'incite à penser que peut-être ce Xenoblade n'est que le premier d'une série de jeux qui seront exclusifs à cette console portable. Et ça, ma foi, c'est pas très rassurant.
Après, la question c'est à se poser, c'est est-ce qu'ils veulent juste finir la session 3DS, ou est-ce qu'ils relancent cette machine qui est assez similaire sur un nouveau cycle vraiment très long comme une console classique? Parce que c'est vrai qu'au niveau des consoles portables, enfin, d'un point de vue personnel, je vois pas trop quelle grosse évolution on pourrait apporter. Et là, ben, je veux dire, il y a un processeur plus puissant, donc des jeux qui seront peut-être un peu plus beaux, on va dire, des nouvelles gâchettes. Donc si ça se trouve, ils vont tout simplement passer sur vraiment une pléthore de jeux qui sera effectivement disponible uniquement pour la nouvelle 3DS et faire ensuite une transition totale. Donc après, je sais pas exactement quelle stratégie ils veulent adopter, parce que ça paraît aussi assez casse-gueule en voyant le parc de 3DS déjà installé et le flou qu'il y a sur cette entre guillemets nouvelle 3DS. Donc de mon point de vue, je pense que ça restera plus occasionnel, c'est-à-dire que là ils ont
tu penses en fait que c'est juste un jeu de lancement, quoi.
Voilà, je pense que ça restera plus occasionnel pour des jeux vraiment qui demandent beaucoup de ressources, parce que là c'est vrai que un Xenoblade n'aurait peut-être pas pu tourner aussi bien sur une 3DS. Et donc là, pour lancer cette nouvelle 3DS, ils mettent ce jeu qui sera exclusif. Mais après, les autres jeux seront tout de même disponibles sur les deux parcs. Le deuxième stick, je pense que c'est aussi de l'occasionnel pour certains jeux comme Monster Hunter ou d'autres jeux en 3D de ce type.
Alors moi, dans tous les cas, je trouve quand même que c'est un beau foutage de gueule, parce que bon, annoncer un jeu exclusif au nouveau modèle, alors que l'ancien ne coule pas tant sous les jeux que ça, et c'est peu de le dire. Non, parce qu'on critique souvent la PS Vita, etc. Moi, je suis désolé, quand je vois le catalogue de la 3DS, personnellement, il me fait pas tellement plus envie. Hein, mais voilà, ça, c'est mon opinion personnelle. Et dans tous les cas, en termes de nombre de jeux sortis, je suis pas sûr qu'il soit tellement plus fourni que ça. Moi, je trouve que c'est un bras d'honneur fait aux premiers acheteurs, tout simplement. Peut-être qu'il veut pas tourner sur la précédente 3DS. Mais à ce moment-là, je suis désolé, il fallait faire un jeu qui tourne sur la précédente 3DS. Parce que il y a pas tant de jeux qui sont sortis sur la précédente 3DS. Et là, moi, comme ça, je suis client de la première heure. J'ai fait l'effort d'acheter plein pot une console Nintendo. Personnellement, ma réaction, là, comme ça, ce serait les consoles Nintendo, plus jamais le premier modèle, quoi. Bon, personnellement, ça fait 15 ans que c'est comme ça, mais parce que j'ai fini par comprendre que Nintendo, il faut jamais acheter le premier modèle parce que c'est le bêta test, et qu'après, voilà, on te sort la version finale. Mais ça, encore, ça allait à la rigueur, parce que, si tu veux, on te sortait pas des jeux exclusifs au nouveau modèle. Alors que là, quand même...
Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, d'un point de vue personnel, je sais que quand Smash Bros va arriver, voilà, je vais regarder quelle 3DS je prends, bah ce sera certainement la nouvelle. Je veux dire, après ça reste un business, et là c'est pour attirer bah des nouveaux acheteurs, justement.
Oui, bah justement, les acheteurs lambda, là, causons-en un peu. À ton avis, il y a beaucoup de gens qui vont comprendre que le Xenoblade, là, il marche pas sur leur première 3DS.
Aïe.
Et je parle de Madame Michu, là. Hein.
Oui. Là aussi, ouais, ce sera un problème, parce que effectivement, moi, je te parle en termes de business pur, mais la chose, c'est qu'en marketing ou autre, c'est plus facile de garder un client que d'en avoir des nouveaux. Donc, c'est vrai que si ils attirent de nouvelles personnes, on va dire, et qu'à côté, 10 sont mécontents, et comme tu le dis, là, je suis en train de voir, effectivement, la grand-mère qui dit « Ah oui, il a une 3DS, donc je vais lui acheter le Xenoblade, comme il me l'a demandé, parce que même le gamin, peut-être... c'est pas que le Xenoblade ne fonctionne pas, et puis il le reçoit à Noël, il le rentre dans sa 3DS et ça fonctionne pas. C'est vrai que là, niveau sympathie au niveau de la marque Nintendo, ça va faire un peu mal. Donc après, c'est une stratégie qui reste assez bancal, mais je pense en tout cas, enfin, de mon point de vue, que Xenoblade restera un élément à part. Je pense pas qu'ils vont non plus sortir plein de nouveaux jeux. Enfin, d'un point de vue logique, ça me paraîtrait assez compliqué de sortir beaucoup de nouveaux jeux exclusifs à cette 3DS 1.5, on va dire.
Dans tous les cas, une petite pique au passage, je remarque que quand même, ce serait Microsoft qui aurait fait ça. Il y aurait le feu sur Internet en ce moment, je pense. Je pense que il y aurait une révolution ou un truc comme ça. Là, Nintendo, je sais pas. Bon, bon, il y a des gens qui gueulent, ça ronchonne, mais bon, ça va. C'est
ouais. Après, c'est ça le problème. C'est Nintendo. Moi, même moi, je vois d'un point de vue parce que moi, bon, je reste pas à gueuler sur Internet. Mais je veux dire, c'est vrai que Microsoft va faire quelque chose d'un peu bizarre. Enfin, je vais pas aller le gueuler, mais c'est vrai que j'ai un point de vue un peu plus. Tandis que Nintendo, ils font une bêtise, c'est, même si je l'analyse et je vois que c'est une bêtise, je me fais, oh, c'est Nintendo en même temps, tu vois, parce que c'est vrai qu'ils font tellement de moves un peu bizarres qui sont même parfois contre eux, enfin, des moves un peu, en fait, c'est le mec un peu empoté, tu sais, qui va faire après une bêtise et donc tu vas faire, oh, c'est pas grave, c'est Richard, tu vois, il est un peu empoté, il a fait une bêtise, mais tu vois, c'est, lui-même, il comprend pas trop sa bêtise, donc tu lui en tiens pas rigueur, on va dire. C'est un peu ça, Nintendo.
Ah oui, je note au passage, pour ceux qui n'auraient pas vu la déclaration de Miyamoto cette semaine, que les casus, maintenant, c'est des gros connards. Hein, attention. Venant du mec qui a produit Wii Music, je t'avoue que ça a été surprenant à lire, mais bon, apparemment, pour récupérer les gamers... Autant taper sur les casus, hein. Je veux dire, de toute façon, ils lisent pas la presse de jeux vidéo, donc voilà. Oui. Bon, allez, c'était la fin de la séquence Nintendo, on va passer à Amazon qui rachète Twitch. Alors, c'était juste pour parler vite fait de ce service quand même qui est pas mal utilisé par les joueurs. Donc, je rappelle que Twitch, dans la tête de tout le monde, bah, c'était fait. Hein, Google était en train de négocier pour racheter. Là, c'était bon, c'était dans la poche. Et ben non, en fait. Et pourquoi ? Parce que il se trouve que, tout simplement, il y a ce qu'on appelle les lois antitrust aux États-Unis, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que Google étant propriétaire de YouTube, eh bien... il est à peu près dans le même secteur que Twitch, même si c'est un peu différent, mais bon, on va dire que c'est à peu près la même chose quand même. Et que, on va dire que s'il rachetait Twitch, il serait dans une position dominante, et qu'aux États-Unis, on n'aime pas ça. Voilà, il y a eu un coup d'arrêt qui a été mis à ce rachat, et du coup, ben, c'est Amazon qui est rentré dans la danse, et donc Amazon a racheté Twitch pour la bagatelle de combien déjà ?
Donc c'est 970 millions de dollars.
Oh voilà, donc
voilà. Cash. Ça
fait plaisir, hein, tranquille. Tu noteras que cette somme là, ça fait à peu près 1 milliard. Oui. 1 milliard, je crois que c'est les prévisions de vente d'Electronic Arts en termes de DLC pour cette année là. C'est ce qu'ils ont annoncé cette semaine. Donc tout va bien. C'est de l'argent de poche en fait. Hein.
Ah ouais. ça fait mal quand même.
Donc voilà, pour rassurez-vous, vous aurez plus donc Google sur le dos. Par contre, ça veut dire que les mesures de Twitch, notamment en ce qui concerne les musiques, ça venait pas de Google. Donc voilà, on a tous tapé sur Google, moi le premier. Apparemment, c'était pas eux. Donc
ouais, après il faut voir parce que on parlait beaucoup des discussions avec Google, mais apparemment la discussion n'était pas si avancée que les rapports le disaient. Mais dans tous les cas, peut-être qu'il y avait quand même cette préparation par rapport à des discussions qu'ils ont eues avec Google. Donc peut-être qu'il y avait quand même cet impact. Et même parce que si t'arrives, enfin, s'ils étaient en train de discuter avec Google, ils se sont aussi peut-être dit eux-mêmes par rapport aux dispositions que prend YouTube
sur
ce type de droit d'auteur.
Ouais, parce que je rappelle comment ça fonctionne. En gros, ils regardent la bande son de votre piste audio là et ils disent ah ça c'est du copyright. Hop, on coupe le son et tu peux plus voir la mode. Super. YouTube il retire carrément la vidéo il me semble, hein, mais sur Twitch ils enlèvent le son en fait. Donc voilà, c'est assez violent quand même.
Donc après, c'était un peu peut-être qu'ils se préparaient pour le rendez-vous, mais bon, on leur a posé un lapin, et donc ils ont trouvé un remplacement qui est pas mal, parce que Amazon quand même reste une société qui est assez dévouée au niveau, enfin, j'ai envie de dire, ils sont assez logiques dans leur approche, mais c'est quand même l'une des seules grosses boîtes qui est vraiment à ce point dévouée sur tout ce qui est service client et tout simplement garder ses clients au maximum. Et donc, ils sont constamment à l'écoute. Donc, je pense que pour Twitch, c'est vraiment une bonne chose d'être racheté par Amazon et non Google. Donc, ça s'imbrique aussi dans leur stratégie qu'ils ont mis en place depuis un petit moment, c'est-à-dire racheter des studios. Ils ont aussi engagé pas mal de développeurs de Valve ou autres. Hein. Donc, à voir comment ça va aussi s'imbriquer dans leur stratégie niveau jeux vidéo.
Activision qui voudrait racheter Take-Two. Vous êtes sérieux là les mecs? Non, parce que là je vous explique, ça arrive, je fais la révolution là. Ça va pas être possible hein.
Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a des analystes financiers qui ont croisé pas mal de données par rapport à la stratégie de Activision. Voilà, Activision a quand même des poches qui sont bien remplies avec un bon petit milliard déjà rien qu'en en trésor de guerre, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir un milliard cash. Après, ils ont aussi leurs investissements qu'ils peuvent faire et les actions, mais un milliard cash, ça veut dire qu'ils peuvent racheter quand même pas mal de choses, et donc ils pourraient hypothétiquement se payer donc Take-Two, donc la maison mère de tout ce qui est GTA, 2K, voilà, il deviendrait un peu le Disney du jeu vidéo, on va dire. Il serait assez dominant dans le secteur. Donc déjà, de ton point de vue, tu disais donc que tu ferais un coup d'état. Pour quelle raison?
Pourquoi? Parce que annualisation des GTA, tout simplement. Enfin, voilà, ils le font avec toutes leurs séries. Pourquoi ils le feraient pas avec GTA? Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut être cohérent, quoi. Quoi que on dira, c'est vrai qu'ils ont respecté les IP Blizzard. Mais de moins en moins. Mais voilà. Non, parce que bon, je veux dire, maintenant, Warcraft, c'est, on fait des jeux de cartes, on fait des MOBA, on fait plein de trucs avec, hein. Donc, on prostitue Warcraft à faire plein de trucs, quoi. Bon, je vais me faire des potes, je sens avec ça, mais... En tout cas, je le sens pas, tu vois. Je me dis que s'ils touchent à GTA, là, on va se retrouver avec un jeu par an et on va dire que je veux pas prendre le risque. Voilà.
Ouais, tout simplement. Non, mais c'est clair. Dans tous les cas, c'est vrai qu'Activision, bon, ben, eux, c'est la thune au maximum, même si après je pense pas que tu puisses, enfin ils peuvent d'un point de vue on va dire ben légal faire ce qu'ils veulent avec Rockstar, mais après je veux dire si t'as tous les mecs qui se barrent enfin et que la qualité est pas au rendez-vous, ben ça sera une mauvaise chose a priori pour Activision.
Bon, alors on va partir du côté de chez Valve maintenant. Valve, donc, qui a été attaqué par la DGCCRF australienne. Pourquoi? Parce que il ne vous aura pas échappé que quand vous achetez un jeu sur Steam, il vous est impossible de vous faire rembourser. Et il se trouve que la DGCCRF est pas d'accord avec ça. Donc, enfin, la DGCCRF australienne. Donc, voilà. Moi, je trouve personnellement que c'est une bonne chose. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des questions de early access, etc. Mais justement, ça soulève la question, c'est ça qui est bien.
Non, mais c'est clair qu'à ce niveau-là, parce que c'est le type de choses assez compliquées, hein, tout ce qui est remboursement, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des abus, mais soulever ce type de choses sur tout ce qui est dématérialisé, ça reste extrêmement intéressant. Il faut voir après comment se déroule le procès. Après, je pense pas que Valve rentre dans un gros conflit. Je pense qu'ils vont essayer déjà de comprendre d'un point de vue légal qu'est-ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Et si ça permet à certaines personnes de pouvoir se faire rembourser lorsqu'ils ont un early access extrêmement médiocre, ça serait tout de même intéressant.
Non, mais de toute façon, on va pas me faire croire qu'avec toutes les données qu'il collecte, là, à chaque fois que tu fermes ton jeu, il y a pas moyen de savoir. Alors lui, son jeu, il a planté. Lui, il a joué 80 heures. Je veux dire, ils le savent. Hein, donc, à un moment donné, c'est bon, quoi. Bon, dans tous les cas, moi, mon avis, ce qu'ils craignent surtout, c'est que ça fasse effet boule de neige. C'est-à-dire que si ça cède en Australie, quelque chose me dit que les consommateurs des autres pays vont dire ce sera peut-être une bonne idée de faire la même chose chez nous, voilà. Donc à mon avis, ils seraient peut-être pas très joyeux, hein, mais voilà.
Ouais, surtout en France là, l'UFC que choisir, ils sont pas mal sur le jeu vidéo, donc je pense que s'il y a une décision qui est prise en Australie, il y aura un impact très rapide, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.
Alors, sachant que je crois qu'il y avait une action qui avait été tentée en Allemagne, mais le problème, c'est que je crois que c'était des gros boulets, parce que, en fait, l'article de loi qu'ils avaient choisi, ça parlait de produits physiques, en fait.
Ok.
Donc, du coup, ils se sont fait bananer. Donc, j'espère que si ça se refait de par chez nous, bah, cette fois, on fera les choses proprement. Voilà, voilà.
Ça serait pas mal, effectivement.
Dans tous les cas, c'est Thanos qui va être content. Oh là là. Lui qui nous attend parler des soucis avec Valve, etc. Là, il va faire péter le champagne, je sens. Alors, maintenant, nous allons parler, pour terminer, du PlayStation Network. Alors, par contre, je sais pas si ça date de cette semaine, mais ils ont été victimes d'une attaque. On avait un peu zappé ça, mais c'est assez grave.
Très précisément,
hein.
En fait, ça, parce qu'on a enregistré le podcast de la semaine dernière, samedi dernier. Et c'est samedi dernier, en fin d'après-midi, qu'il y a eu donc cette attaque DDoS. Et ensuite, donc c'est un collectif qui s'appelle Lizard Squad qui a revendiqué le détournement, parce qu'il y a aussi le détournement du président du Sony Network, en fait.
Parce qu'ils prenaient son avion, ils ont dit que je crois qu'ils avaient mis une bombe, un truc comme ça.
Exactement.
Et donc dans le doute.
Et dans le doute, voilà, son avion,
a
été détourné, et donc ensuite, ce fameux collectif, donc Lizard Squad, c'est un collectif, on va dire, de terroristes islamistes, donc ils ont revendiqué par rapport à ce type de choses, ce détournement, et il y a aussi eu, voilà, c'est encore une fois cette fameuse attaque des DDoS qui a donc ralenti le PlayStation Network pendant quelques jours, donc là, ça a été rétabli en tout cas.
Attends, ça veut dire que les terroristes sont pro-Xbox? Oh putain, ça tout fout le camp, je vous jure. Moi de mon temps, tu vois, on faisait pas de discrimination. Microsoft, Sony, en plus c'est des Japonais, Sony. Je veux dire, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre des terroristes des Japonais, quoi, sérieux. Franchement.
C'est parce que c'est la plus populaire. Ils ont cru que c'était. Ils ont fait ça se vend bien, ça doit être américain. Et puis après ils ont dit ah merde.
Bon, dans tous les cas, Sony, il serait peut-être temps d'avoir des infrastructures pour résister aux attaques DDoS, hein, parce que ça existe. Il va peut-être falloir se retrousser les manches, là, parce que c'est pas la première fois.
Oui, c'est ça le problème.
C'est ça le problème. Et bizarrement, ça arrive pas autant sur Xbox Live, donc je me pose des questions à un moment donné, quoi.
Ouais, parce que, a priori, si c'est vraiment ce type de choses, si c'est vraiment un groupe de terroristes islamistes, a priori, ils s'attraqueraient plus facilement à Microsoft qu'à Sony, et donc, je pense qu'ils ont dû essayer. Et si Sony se fait avoir à chaque fois, je pense que c'est que les infrastructures sont certainement moins résistantes que celles de Microsoft.
BoJack Horseman, the star of the situation comedy Horsin' Around, is our guest tonight. What have you been doing since the show's cancellation 18 years ago?
Shit, Charlie. Is it okay to say shit?
Please don't.
Okay, sorry. I'm just pretty f***ed up right now.
Is it just me, or am I nailing this interview?
Are you drunk? I weigh 1,200 pounds. It takes a lot to get me drunk. Yes?
I'm not calling you as your ex. I'm calling you as your agent.
All right. There's no need to get...
What, caddy? Are you gonna say caddy?
I was not gonna say caddy.
All right, what were you gonna say?
I was gonna say caddy.
You're dating him?
Yes.
This is your boyfriend?
That is correct.
Uh-huh.
This penis has been inside this vagina?
Yep.
But in a sexual way?
Yes.
Even though you don't want anyone to know it, you secretly have a good heart.
You'll never guess who's here. BoJack Horseman. He got a little fatter, but it's definitely him.
I thought maybe for one night, I could go out to a bar and try to forget about myself. But no! And maybe because you're pretty, you're used to getting away with things. But you are a horrible person.
You think I'm pretty?
That was a regrettable life choice.
What'd you say? I was tweeting about all the weird stuff you do in bed.
Et donc, c'est terminé pour cette semaine pour l'actualité. Je sais, ça a été rapide, mais que voulez-vous, l'actualité n'a pas été très chargée cette semaine. Nous allons donc passer au point culture, et le point culture, Dwayne, c'est quoi?
Donc, c'est BoJack Horseman, donc c'est une série animée donc de Netflix, justement, hein, Netflix, donc je reviens très rapidement, un peu d'actu tech, on va dire. Donc Netflix qui arrive le 15 septembre hein, en France, trois offres, hein, donc la première en définition standard, donc à 7,99€, la deuxième, donc là ce sera sur un écran, ensuite sur deux écrans en HD, donc là on sera à 8,99€, et au final, donc 4 écrans pour 11,99€ par mois.
Alors moi, j'y connais rien honnêtement en VOD, mais tu trouves ça raisonnable, toi ou...
Ben, moins de 10€, ça me paraît effectivement raisonnable, vu qu'on a aussi le service de Canal+, bon, qui là est pas extrêmement bien fourni pour l'instant, mais qui rajoute pas mal de séries et de films ben, toutes les semaines. Ils ont baissé le prix, donc il me semble qu'ils sont vers les 6-7€. Donc après, ce sera à voir en fonction, parce que s'il y a un catalogue extrêmement fourni comme aux US, bah personnellement, 9€, on va dire, parce que moi, a priori, si le catalogue est bien fourni, donc je prendrai la formule avec deux écrans en HD. Donc pour 9€, ben, je veux dire, accéder à des milliers de films et pas mal de séries, dont les séries de Netflix en exclusivité, ben ça pourrait être assez intéressant, sachant que Netflix a quand même un bon catalogue. Enfin, je suis assez fan de leurs séries aux US, et ils investissent aussi pas mal dans les pays où ils sont implantés. Donc on aurait aussi peut-être une bonne série française à avoir. Donc oui, concrètement, je trouve le prix assez bon. Après, il faudra voir, comme tout service de ce type, le catalogue au lancement.
Bon, allez, BoJack, s'il te plaît.
Alors,
c'est quoi
BoJack Horseman? Donc, c'est, comme je l'ai dit, une série animée avec pas mal de grosses stars, enfin, deux séries, en tout cas.
Alors, attends, juste une chose, quand tu dis animé, c'est animé Pixar ou animé alors, animation oui. Japonaise ou animé comics?
Non, donc c'est animé, aucun de tout ça. Donc, c'est animé un peu en mode... c'est difficile à expliquer, c'est-à-dire que c'est un peu des dessins... assez mal fait, c'est un peu style South Park, même si c'est pas exactement le même style de dessin, mais c'est un peu dans le même concept, c'est-à-dire qu'on est sur du dessin assez moche en fait, mais très bien animé et qui va assez bien avec le contexte de la série en elle-même. Donc juste pour citer le casting, donc on a donc BoJack Horseman qui est donc un cheval, hein, comme son nom l'indique un peu. Donc c'est une ancienne star de sitcom un peu familiale à la C'est à la maison ou ce type de conneries là.
Oh mon Dieu.
Donc alcoolique, voilà la caricature du mec has-been qui a été connu et qui maintenant vit sur sa gloire passée. Donc on suit un peu son retour à la célébrité, à la gloire, donc enfin la façon dont il va essayer de retourner sur cette célébrité. Donc on a au niveau des stars, enfin au niveau du casting, donc Will Arnett qui joue BoJack Horseman, qu'on peut voir dans des séries comme 30 Rock ou dans le nouveau Tortue Ninja qui va arriver. Ouais, super. On a aussi Aaron Paul, hein, donc le compère de Walter White dans Breaking Bad, donc Alison Brie qui elle jouait dans la série Community pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on a quand même un casting pour les fans de séries télé en tout cas qui est assez sympathique.
Ça a l'air bizarre. Hein. Là, je t'avoue, je suis en train de regarder des images. Là, c'est limite, ça me fait flipper, tu vois. Donc
ouais. Après, c'est un
le
truc
dessin,
un peu...
c'est très inquiétant, quoi.
Ouais, c'est vrai que le dessin est un peu spécial. Donc après. Ça reste des séries de niche, donc après il faut adhérer dans un premier temps au style graphique.
Mais au-delà du style graphique, est-ce que c'est aussi corrosif que South Park ou c'est plus du divertissement
Donc non, là voilà, c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une narration assez poussée, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du un épisode où on va regarder le premier et puis le dixième, comme beaucoup d'animés un peu comiques, même très bons, comme les Simpsons ou South Park, où on va pouvoir regarder un épisode comme ça. Là, on est vraiment sur une narration poussée entre les différents épisodes, et on a aussi un aspect assez drama, donc on est en même temps sur de l'humour, mais on a quand même une réflexion sur la société, sur l'aspect un peu Hollywood, tout ce qui est télé-réalité, enfin la sur la célébrité, la façon dont cette espèce d'has-been, on va dire, retourne à la vie normale. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. On est sur quelque chose d'assez irrévérencieux, on va dire. Donc là, on est à 12 épisodes pour l'instant. C'est assez intéressant, tant au point de vue effectivement de la narration que du scénario. Tous les acteurs sont vraiment très bons.
Les voix, il n'y a pas de voix française, hein, c'est que des voix anglaises, on est d'accord.
Ah non, non, c'est même si vous essayez de la... Il n'y a même pas de VostFR d'ailleurs. On va dire qu'il va falloir la chercher si ça vous intéresse. Hein. Donc, enfin, je pense que vous savez comment vous procurer tout ça. Ou sinon, attendez que Netflix arrive. Hein. Je pense qu'ils vont tout de même la proposer en VostFR.
Oui, parce que c'est eux qui la produisent, cette série. Et
exactement.
Bien,
voilà, c'est une série totalement produite par Netflix. Donc, c'est un contenu original. D'ailleurs, j'ai été très étonné parce que je regarde de temps en temps ce type de série un peu bizarre. Donc, parce qu'il y a une chaîne aux États-Unis qui s'appelle Adult Swim, hein, qui passe tout ce type d'animé pour adultes, on va dire, avec une vraie réflexion. En général, c'est des animés qui sont sympathiques, mais qui ne vont pas au-delà. Là, sur BoJack Horseman, on est vraiment sur une vraie réflexion sociétale, et donc c'est un animé, dans tous les cas, que je conseille. Donc après, je vais pas trop dans les détails au niveau de l'histoire, parce que c'est une histoire qui reste assez simple, donc je vais pas vous spoiler.
Pour le moment, il y a que 12 épisodes, c'est ça. Donc,
voilà.
Ouais, vaut mieux pas spoiler, effectivement. c'est quoi comme format
C'est un format 25 minutes, assez classique, donc ça se consomme assez rapidement, mais ça reste quelque chose qu'on suit, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder un épisode comme ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre la série dès le début pour l'apprécier au maximum.
D'accord, et globalement, les acteurs jouent bien, etc.
Donc tous les acteurs sont vraiment très bons. Bah, sur ce type de série, de toute façon, c'est l'un des aspects principaux aussi, les voix-off sont
C'est sûr que vu la gueule du machin, c'est pas sur son aspect visuel qu'il va se vendre. Hein.
C'est-à-dire que les acteurs sont vraiment tous très bons, d'ailleurs, moi, je connais la plupart des acteurs qui jouent dedans. Et voilà, ils prennent vraiment une voix en adéquation avec le rôle. C'est-à-dire qu'on les entend pas faire, par exemple, Aaron Paul, qu'on voit dans Breaking Bad. On n'entend pas le personnage de Breaking Bad. Il a vraiment une voix qui est adaptée au personnage qu'il joue. Donc voilà, ça reste très bon au niveau du jeu d'acteur. Donc c'est d'ailleurs l'une des qualités qui fait que la série est assez bonne à ce niveau-là. Donc concrètement, c'est une série que je conseille. Donc attendez le 15 pour la voir sur Netflix, vu que ce sera de toute façon un des shows qui sera proposé. Donc là, en VostFR.
Ok. Bon, Dwayne, je te propose qu'on s'arrête là pour cette semaine.
Oui, voilà, un petit shortcast hein, pour la fin des vacances.
Ah oui, là j'en peux plus. rendez-vous la semaine prochaine, peut-être avec Mordren, non, parce que à chaque fois je l'annonce, mais en fait je commence à douter, donc Mordren, tu as intérêt à être là cette fois, je te le préviens. Peut-être avec Mamie, mais là ça dépend pas lui, le pauvre. Déjà il y a le décalage horaire, ouais, et en plus il y a le fait que je suis même pas sûr qu'il aura une connexion internet. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine, bye bye à tous.
Bye bye.